Tous. Ce matin, alors, c'est pas ce matin que ça s'est passé, mais le Seigneur m'a mis à cœur de sortir un peu des sentiers battus. Alors, vous inquiétez pas, on va quand même rester dans la Bible, hein. Mais doublement. Pour cette dernière étude sur notre série sur les dons de l'Esprit, j'ai envie de creuser la Bible avec vous. Et non, ce n'est pas juste une manière de parler. Vous allez avoir besoin d'une Bible ce matin, entre vos mains. Personnellement, je préfère le papier, mais si vous n'en avez pas sous la main et que vous avez un téléphone avec une Bible dedans, sortez là aussi. Si vous n'avez pas l'habitude d'étudier un texte biblique, j'espère que les deux textes qu'on va voir ensemble et cet exercice qu'on va faire ensemble vous donneront l'envie de le faire aussi dans vos lectures personnelles. Je vérifie juste, voilà, super. Donc, le premier texte qu'on va voir est le début du chapitre 17 du livre d'Exode, et le second est le début de Nombre chapitre 20. Projeter sur le mur les deux textes serait illisible. Je laisserai donc, au fur et à mesure de cette prédication, seulement le texte de Nombre 20 affiché. Et vous pouvez, de votre côté, garder Exode 17 ouvert. Okay. Est-ce que c'est lisible ? Chez moi, j'étais à 20 cm de l'écran, oui. Oui, c'est pas un gros oui, oui. Allez. Désolé pour ceux qui ont des lunettes et qui se sont mis au dernier rang. Vous allez vite vous en rendre compte, ces deux textes qu'on va lire ont beaucoup en commun. Vraiment beaucoup. J'ai préparé une série de questions qui vont nous permettre d'observer, d'analyser ces textes ensemble. Commençons donc par la lecture de ces textes. Parce que du coup, par contre, c'est trop petit pour moi. Alors, Exode 17, c'est ça ? Oui. Je lis dans la version du Semeur. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin, selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim, où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse en partie et lui disant « Donne-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel ?» Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple ? Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là, devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. » Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Meriba, épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main à l'Éternel en disant « L'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous ?» Et maintenant, avançons sur le texte de Nombre. Le premier mois de l'année, toute la communauté des Israélites parvint au désert de Tsin. Le peuple établit son campement à Kadesh. C'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. L'eau vint à manquer. Alors le peuple s'attroupa pour s'en prendre à Moïse et à Aaron. Ils s'en prirent à Moïse et lui dirent « Ah, si seulement nous étions morts comme nos compatriotes ont péri devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert? Pour nous y faire mourir, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte et venir dans ce lieu de misère? Ici, on ne peut rien semer. Il n'y a ni figuier, ni figue, ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre, où ils se jetèrent face contre terre. Alors la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Prends ton bâton, et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté. Devant eux, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. » Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» Moïse leva la main et par deux fois frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes purent se désaltérer. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Vous ne m'avez pas été fidèles. » Et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. Ce sont là les eaux de Meriba de la querelle, où les Israélites avaient cherché querelle à l'Éternel et où il manifesta sa sainteté devant eux. » Voilà pour nos deux textes. Donc vous avez vu, clairement, ces deux textes ont de grosses ressemblances. Ils sont en miroir. Ils ne sont pas dans le même livre, ils ne sont pas exactement au même moment, mais ils sont en miroir. Je vais vous poser des questions d'observation, parce que moi, c'est bon, le texte, je l'ai déjà observé. Et vous allez librement et à haute voix, et je le dis bien librement et à haute voix, courage, donner la réponse qu'on trouve dans le livre d'Exode et dire si c'est la même réponse pour Nombre ou si non, c'est différent. Et dans ce cas-là, donner la réponse qu'on trouve dans le texte de Nombre. Alors, ne soyez pas timides. Toutes les réponses sont dans le texte, sauf une. Mais elle n'est pas très, très compliquée non plus, je vous le dirai. Alors. OK. Donc, on va d'abord regarder, donc rester sur Exode 17, hein, et on va aussi regarder la première partie du livre de Nombre. Donc on commence par la fin. À la lecture des conclusions de chaque texte, l'avis de Dieu sur l'action de Moïse vous a-t-elle semblé être la même ou différente ? Ouais, j'ai un différent devant, je vais être d'accord avec toi. On va rester là-dessus. Et ça, c'est vraiment intéressant. On a deux textes qui sont quasiment identiques. Il se passe la même chose, presque, et la réponse de Dieu est différente. On va donc voir le reste des éléments de ce texte pour comprendre pourquoi et en quoi, malgré toutes ces ressemblances, cet avis de Dieu est différent. Alors, dans quel type d'endroit se trouve le peuple d'Israël ? Un désert. Dans les deux cas ? Parfait, on avance. La seule question qui n'est pas dans le texte, question de contexte. Où est-ce qu'on en est dans le moment de l'histoire d'Israël ? Ouais, voilà. C'est l'Exode. Enfin, ils sortent d'Égypte, ils vont vers Canaan. Exode, on est plutôt vers le début, effectivement. Nombre, on est à ça de la fin, de la deuxième fin, d'ailleurs. Hein. Vous savez, après qu'ils aient tournicoté 40 ans dans le désert. Qui sont les personnages ? J'avance un peu, je les avais affichés. Hop, non, j'en étais là, pardon. Qui sont les personnages ? Les Israélites, Moïse, Aaron, dans le texte de Nombre, ouais, et Dieu. Merci. Merci. Ça, jusque-là, tout va bien. OK. Que demande le peuple à Moïse ? De l'eau. À boire. Par deux fois. Pourquoi est-ce qu'ils lui demandent ? Parce qu'ils ont soif, ouais, ok. Est-ce que c'est l'heure de l'apéro ? Non, pas tout à fait. Comment ? Ils n'en trouvent pas assez facilement. Et qu'est-ce qui se passe s'ils n'en trouvent pas ? Ils meurent, voilà. Donc là, il le répète, pour nous y faire mourir, nous et notre bétail, dans le texte de Nombre, et vous avez quelque chose de très similaire, effectivement, dans le texte d'Exode. Dans quel état d'esprit le fait le peuple ? Fait cette demande. Ouais, pas content, pas content. Carrément, carrément, en colère. Je ne sais plus ce qu'il y a dans le texte d'Exode, mais le peuple s'attroupa pour s'en prendre à Moïse. Et « Ah, pourquoi ?» Et avec toutes ces négations, « Non, ni, il n'y a même pas d'eau. » Voilà, comme des vrais enfants, comme il faut. Comment ? Oui, voilà, c'est clairement dans cette dynamique-là. Qu'est-ce qu'il regrette, ce peuple ? L'Égypte. Pourquoi il regrette l'Égypte ? Ah, il y avait de l'eau, il y avait à manger. Ouais, il y avait d'autres problèmes, mais au moins il y avait de l'eau à manger. Ouais. Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte et venir dans ce lieu de misère, de milieu où il n'y a rien ? Même pas d'eau. Que fait Moïse devant ces accusations ? Ouais. Il crie à l'Éternel, il se jette face contre terre. Bon, voilà. Il se dirige vers la tente de la rencontre, lieu de la présence de l'Éternel, effectivement. Ok. Que répond Dieu à Moïse dans ce cas-là ? Il l'encourage. Dans le bâton. Ouais. Oui, on y vient. En gros, il lui dit, prends ton bâton et fais ce que je te dis avec. Je mets une limite là dans la question. Est-ce que cette, juste cette partie-là, le « fais ce que je te dis », c'est bon, on l'a dans les deux cas. Ok. Et je vois votre impatience. Qu'est-ce que Moïse fait avec le bâton ? Alors, avant ça, avant le miracle, il convoque les anciens, il prend le bâton avec lui, et ça nous est précisé par deux fois, et c'est ça peut être évident, hein, mais c'est, en fait, c'est une symbolique très importante à ce moment-là pour Moïse. On en reparlera un petit peu après. Et est-ce que Moïse rend le peuple témoin du miracle ? Dans les deux cas ? Dans le deuxième cas, ils convoquèrent l'assemblée devant le rocher. Donc on peut considérer que l'Assemblée, c'est le peuple. Et dans le premier cas, je crois qu'ils prennent les responsables, c'est ça ? Ouais, bon. Dans les deux cas, on va dire le peuple, par ses représentants ou de lui-même, est présent. Il faut savoir qu'ils étaient quand même très très nombreux. Hein. Donc juste devant un rocher, je pense qu'il y avait que la première ligne qui arrivait à voir le rocher. Hein. C'est pas non plus l'obélisque qu'on peut avoir à Paris. J'ai oublié le nom de la place, c'est pas grave. Allez, et votre impatience, elle est peut-être à cause de cette question-là. Moïse respecta-t-il l'ordre de Dieu pour réaliser le miracle ? Voilà. Oui, en Exode, Dieu a dit, tu frapperas le rocher, Moïse a frappé le rocher, très bien. Dans Nombre, Dieu a dit, tu parleras au rocher. Et il a frappé deux fois. Et en plus, Moïse, il fait un truc juste avant de frapper le rocher. Il dit, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau du rocher ? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un aveu de sa part, effectivement ? Le miracle se réalisa-t-il ? Oui, par deux fois. Le peuple fut-il sauvé d'une mort certaine ? Merci. Dieu approuva-t-il l'attitude de Moïse ? Alors, dans le premier cas, oui. Dans le premier cas, en fait, il n'y a aucune. On ne nous précise rien sur Exode. Le texte s'arrête là, fin du miracle. On conclut juste, bon, bah, Dieu approuve, puisqu'il a fait le miracle, et on passe à autre chose. Ouais. Si mes enfants font quelque chose de bien, bon, des fois je leur dis que c'est bien, des fois je leur dis juste, bah, rien. Je suis désolé. Mais voilà. Dans Nombre, donc non, qu'est-ce qu'il lui dit ? Vous ne m'avez pas été fidèle et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. Voilà pour la partie observation. J'espère qu'il vous reste un peu de ménage. Parce que dans l'exercice d'étude d'un texte, il y a un moment où on essaye de se dire, ok, c'est bien tout ça, j'ai vu plein de trucs, c'est quoi le, je vais utiliser un gros mot, hein, le centre herméneutique, la proposition principale, ou finalement, pour le dire en français courant, le message central. Dans chacun des cas. On voit que Nombre est effectivement un épisode qui est raconté en miroir, en rappel de l'Exode. Les conclusions, on les a vues, sont différentes. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est en quoi on peut comprendre cette conclusion différente par les différences, les autres différences qui sont dans ce texte. Dans ces textes. Donc les différences, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Moïse, devant le peuple, ne respecta pas l'ordre de Dieu pour réaliser le miracle. Et le deuxième, Dieu n'approuva pas l'attitude de Moïse. Donc à la fin, effectivement, vous ne m'avez pas été fidèle et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une proposition centrale ? J'ai fait le début. Comment vous la compléteriez ? Tous les honneurs doivent être rendus à Dieu quand un miracle se produit. Ouais, d'autres choses ? Quand on fait sa volonté. Ouais, c'est bien tout ça. Et puisque nous sommes quand même dans le thème des dons, il serait dommage qu'on n'en parle pas, ma proposition, à rejoindre ce que vous avez dit, hein. Simon notamment, j'aime bien ce que tu as dit, quand on fait sa volonté, quand on utilise les dons qu'il nous a donnés. Le miracle est fait dans Exode, clairement par Dieu, mais au travers de Moïse. Ok, gardons ça pour le texte de Nombre. Exode, lui, on le comprend par superposition au texte de Nombre 20, en fait, on voit une certaine constance qui se dégage de l'attitude de Dieu. Ça nous permet un peu de dire, ok, je vois ça là, je me dis que Dieu est plutôt constant et j'essaye un peu de sentir qui il est. Les points communs dans les faits du peuple et la réponse de Dieu nous permettent de comprendre Dieu et son plan pour son peuple. Donc des points communs, il y en a un peu plus, mais on va essayer de les synthétiser comme ça. Le lieu, la traversée du désert depuis l'Égypte vers la terre promise, en Canaan donc. Le peuple veut de l'eau pour ne pas mourir. Okay. Ils s'en prennent avec reproche à Moïse en disant « l'Égypte, c'était quand même mieux avant ». Moïse cria à Dieu et l'Éternel répond par un miracle. Moïse, dans les deux cas, c'est la main qui réalise le miracle devant le peuple, et dernier point commun, le miracle se réalise, le peuple est sauvé. Allez, plus dur, j'ai mis que trois petits points. Qu'est-ce que vous en diriez de ce texte d'Exode ? Comment vous le synthétiseriez ? Dieu s'occupe de son peuple, En dépit de nos défaillances, tu restes fidèle. Ok. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu toutes les réponses qui ont été dites dans l'Assemblée, mais je vois que ça travaille. C'est bien. Ok. Je vais vous faire patienter un tout petit peu. Même si ce texte de Nombre est celui qui s'inscrit dans notre thème sur les dons donnés par Dieu, le thème d'Exode pose sur la table quelque chose qui est tellement merveilleux et important qu'il serait, à mon sens, bien triste de ne pas en dire quelques mots. Alors oui, ça va être en dehors de ce thème, de cette série de prédications sur les dons, mais non, il faut qu'on en passe par là. Pour ma part, ce texte d'Exode pourrait se résumer avec ce message central. Le message central, par contre, je l'ai bâti tout à l'heure, c'est qu'est-ce que ce texte-là dit pour les premiers destinataires, pour le peuple. On n'est pas dans une interprétation après coup pour nous, comment est-ce qu'il me parle, etc. Mais donc, par l'intermédiaire de son prophète, Dieu a sorti son peuple de l'esclavage et le préserve de la mort jusqu'à l'aboutissement du voyage dans la terre promise où il continuera à vivre éternellement parmi eux. Alors, éternellement, il vous paraît peut-être un peu bizarre, mais de leur point de vue, c'est pour des générations et des générations et des générations et des générations, jusqu'à la fin qui n'est pas été prévue. Nous, on se trouve un petit peu plus loin que ça dans le discours, mais pour eux, c'était l'éternité que Dieu leur promettait avec eux. À qui cette phrase vous fait-elle penser ? Qui est ce prophète ? Qui est ce prophète ? Ouais, merci. Par l'intermédiaire de son prophète Jésus, Dieu a sorti son peuple de l'esclavage du péché et le préserve de la mort jusqu'à l'aboutissement du voyage dans la nouvelle terre promise où il continuera à vivre éternellement avec eux. Ça marche ou pas ça ? Bien, Jésus n'est pas le nouveau Moïse. C'est Moïse qui est le type, la préfiguration de Jésus. Christ est l'antitype de Moïse. C'est celui qui vient accomplir ce qui a été annoncé, préfiguré. Regardez de nouveau le verset 3 dans le texte d'Exode. Quelle est cette peur profonde du peuple ? La mort. Cette peur est justifiée, mais réfléchissons un instant. Dieu se serait-il vraiment donné tout ce mal avec les 10 plaies d'Égypte pour faire sortir son peuple si c'était pour le laisser mourir quelques kilomètres plus loin ? Ce serait absurde. Bon, il s'est passé des trucs dans le désert où certains sont morts. Ok, mais le peuple, prenons-le comme une personne en tant que telle, comme une seule entité, le peuple n'est pas mort. Dieu ne libère pas son peuple pour le laisser mourir juste après, il le libère parce qu'il veut vivre avec lui. Jésus a fait 2 choses pour nous. D'abord, il est mort, et ensuite, il est ressuscité. Par sa mort, Dieu nous accepte en sa présence pour l'éternité. Et par sa résurrection, la mort et le péché ont perdu leur puissance sur nous. Moïse a déjà annoncé Jésus, a déjà présenté la volonté du Seigneur pour son peuple, pour tous les temps. Le Seigneur veut vivre avec nous et il a tout préparé. L'invitation est tentante. Moi, j'y serai, et vous ? Alors, je pourrais dire laconiquement que, comme à notre habitude, nous allons bientôt démarrer une session de préparation au baptême. Mais mince ! Impossible d'être aussi neutre sur une telle annonce. Nous qui avons été rachetés par l'amour du Père, savons que choisir Jésus-Christ, c'est la décision d'une vie. Gloire à Dieu, parce que je sais que plusieurs parmi vous se posent actuellement de sérieuses questions sur le baptême, sur cette étape décisive pour une relation avec Dieu. Et alléluia, parce que depuis toujours, Dieu veut que nous vivions éternellement avec chacun d'entre nous. Dieu a aussi envoyé une invitation à votre nom. À la fin du culte, François et moi serions heureux d'en parler avec vous et de prier pour vous, si vous voulez parler de ce sujet-là. Voilà donc pour cette petite aparté sur le premier Mériba dans le texte d'Exode. Maintenant qu'on a vu que le second se concluait un petit peu plus négativement, hein, c'est certain, comment est-ce que cette histoire dans Nombre nous rejoint ? Une fois qu'on a retenu seulement les différences entre nos deux textes, il ne reste qu'une simple relation action-sanction. Moïse n'a pas honoré Dieu devant le peuple. Le Seigneur lui retire l'accès à Canaan. C'est dur, non ? Et c'est là où, en fait, mes enfants me diraient « Oui, bah, c'est bon, on a bien le droit de se tromper. » Justement, pour Moïse, sur ce coup-là, de cette manière-là, non. Non, il s'est vraiment planté. Dans nos deux textes, Moïse agit publiquement avec son bâton. Avec ce bâton qui, je vous le disais, il y a un truc derrière, ce bâton, c'est le symbole de l'autorité de Dieu. Pour Moïse, hein. Prenez pas n'importe quel bâton. Il agit donc pleinement en tant que prophète, et avec ce don, avec ce ministère particulier que Dieu lui a donné lorsqu'il s'était manifesté à lui dans l'épisode du buisson ardent. Dans nos deux textes, le peuple voit donc en Moïse, avec son bâton, l'autorité et la parole de Dieu. Mais dans Nombre, Moïse n'a pas respecté la manière dont Dieu avait demandé de faire le miracle. Dieu lui reproche donc de ne pas avoir honoré sa sainteté, ou dans d'autres traductions, peut-être vous trouvez « manifester sa sainteté ». Pour essayer un peu de comprendre ce qu'il y a derrière cette expression, je propose d'avancer de quelques milliers d'années. En 1952, la scientifique Rosalind Franklin avait produit une image au rayon X extrêmement précise de l'ADN, appelée photo 51. C'était donc le 51e cliché d'une expérimentation particulièrement difficile. Les appareils photo à 12 mégapixels n'existaient pas encore. Les pixels non plus d'ailleurs, et mettre en place une telle expérience pour produire un unique cliché pouvait prendre 2 à 3 jours. Cette photo 51, enfin réalisée dans des conditions parfaites, avait permis de comprendre que la molécule d'ADN avait une structure en double hélice. Cette photo-là, elle a été montrée à James Watson et Francis Crick, sans que Rosalind, la découvreuse, en soit informée. Ils s'en sont servis pour construire leur modèle de la double hélice et ils ont publié sous leur propre nom la découverte en 1953. C'est une époque aussi où les scientifiques femmes étaient un petit peu moins bien reconnues. Voilà. En 1962, le prix Nobel a été attribué à Watson, Crick et Wilkins. Franklin, donc Rosalind, dont les données étaient essentielles, n'a jamais été récompensée. Entre-temps, elle est décédée et le prix Nobel n'a pas été attribué à titre posthume. Dans le récit public de la découverte, beaucoup ont longtemps retenu, surtout Watson et Crick. J'en reviens à nos deux textes. Le prix Nobel du rocher transformé en source d'eau est attribué à... Et en Exode, il n'y a pas de souci là-dessus. Le peuple a pu reconnaître Dieu comme auteur du miracle. Très bien. En Nombre, le peuple voit et entend que c'est Moïse qui détient le pouvoir de faire ce même miracle. Si j'extrapole cette affirmation, en ne respectant pas les consignes de Dieu, Moïse a dit au peuple « Regardez, j'ai le pouvoir en moi-même de faire des miracles. Je n'ai pas besoin de Dieu. L'homme n'a pas besoin de Dieu. » Et là, ça coince. Dans le rôle de prophète que Moïse a pour le peuple, c'est un échec à ce moment-là. L'enseignement qu'il apporte est très grave. Mais cela nous montre aussi que même Moïse est faillible dans son ministère, dans son service pour Dieu et son peuple. Pour autant, nous croyons que Dieu sait toutes choses à l'avance. Quand il a demandé à Moïse, dans le buisson ardent, d'être son prophète pour son peuple, il savait déjà que ça allait se passer comme ça. Il savait qu'il y aurait des failles, des ratés dans son ministère. Et pourtant, il lui a fait confiance. Il en est de même pour nous, et c'est une bonne nouvelle. Vous voulez servir le Seigneur ? Répondre à ce que son esprit vous pousse à faire ? Bien, le Seigneur sait déjà que nous allons avoir des ratés et des échecs, mais il nous fait confiance. Là, par contre, où le péché de Moïse nous met en garde, c'est bien sur le fait de rendre gloire à Dieu quand nous le servons. En groupe de maison, si vous avez déjà fait la quatrième étude sur Philippiens, vous avez lu ce verset. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Là, c'est Paul qui parle. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Nous sommes donc poussés par l'Esprit à agir selon la volonté de Dieu, selon la volonté du Père. Quand nous agissons, ne tirons donc aucun honneur personnel de ce que nous faisons, mais bien au contraire, rendons explicite l'œuvre de Dieu par nos actes et par nos mots. Si vous avez apporté un enseignement qui a fait grandir un ami, gloire à Dieu. Si la louange que vous avez animée a été chercher un frère au fond du trou pour apporter la joie et l'espérance, gloire à Dieu. Si vous avez eu une parole d'encouragement ou de réconfort qui a relevé une sœur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En conclusion, et pour le dire comme une parole pour notre croissance personnelle, grandir en maturité spirituelle ne nous rend pas plus forts et compétents. Cela nous rend plus sensibles à la dépendance que nous avons à l'Esprit Saint, et Dieu transparaît mieux, plus évidemment, au travers de nos actions. Ne laissons pas Satan nous faire croire que c'est par nos compétences que les choses se font dans l'Église. S'il ne doit y avoir qu'une seule compétence à travailler, c'est l'écoute et l'obéissance au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut prier pour nous ? Prions.